I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission sur l'actualité du football européen. Je suis Arthur Merle et je suis ravi de vous retrouver cette semaine. Semaine de trêve internationale, mais on va quand même débriefer ce qui s'est passé ce week-end dans les différents championnats. Trois invités cette semaine et on va commencer en Ligue 1 avec pas mal d'actu sur et en dehors des terrains, mais on va faire un focus sur l'inévitable Kylian Mbappé, auteur d'un triplé dimanche soir à Montpellier. Ressort-il grandi de cette phase de gestion de temps de jeu par Luis Enrique? On va poser la question à Elton. On ira ensuite en Liga, lieu du choc entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone dimanche soir. Grosse victoire pour le Barça. Les Blaugrana peuvent-ils encore jouer le titre? En rêvent-ils? On demandera ça à Anna Caro. Et puis on ira en Allemagne où on va parler football de club et de sélection puisque l'Allemagne affrontera la France samedi en match amical. Un constat, il y a de plus en plus de joueurs qu'on ne connaît pas dans les listes de Julian Nagelsmann. Une question, les Allemands sont-ils prêts avant leur Euro à domicile? On verra tout ça avec David. Voilà pour le programme, le rappel c'est toujours le même, vous pouvez retrouver Tour d'Europe sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Pour ça, il vous suffit de taper Eurosport Football Club et puis comme d'habitude, les meilleurs moments de l'émission seront à retrouver en vidéo sur eurosport.fr. Voilà, on est prêt, on peut y aller. On commence ce Tour d'Europe en Ligue 1 et on rejoint notre expert du football français, Elton Mokolo. Salut Elton, j'imagine que tu as passé un bon week-end de Ligue 1 parce qu'il a été animé. On a pas mal de choses à débriefer et on va peut-être commencer par ce qui s'est passé en coulisses du côté du FC Nantes. Alors nouvelle défaite pour les Canaries qui vont décidément très mal d'un point de vue sportif. Et il s'en est suivi le licenciement de Jocelyn Gourvennec qui est remplacé par, surprise, Antoine Comboiré, licencié en mai dernier. On n'arrive plus à y voir très clair là, sur la gestion du FC Nantes, Elton.
Déjà, bonjour Arthur, et j'ai un petit regret. Alors, bien évidemment, j'adore l'équipe de France, mais là, quitter la Ligue 1 sur ça, c'est un peu trop. Maintenant, pour revenir sur Nantes, effectivement, ça a été encore un week-end riche en émotions parce qu'il y avait l'anniversaire de la Brigade Loire, et ça n'a pas été les meilleurs moments pour prendre trois buts face à Strasbourg. Ensuite, il y a le licenciement de Gourvennec et le retour d'Antoine Comboiré, qui lui-même était déjà parti la saison dernière. C'est vrai qu'on n'y comprend plus rien du côté de Nantes. Si ce n'est une chose, il faut se sauver, mais par tous les moyens possibles. Et si on doit rappeler Antoine Comboiré, qui avait déjà réussi ça en 2021, on va rappeler Antoine Comboiré. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit un club qui est désespéré à l'idée de rester en Ligue 1.
Un autre club qui est un peu plus en difficulté, alors on est loin des standards du FC Nantes, mais on parlait très bien de l'OM ces derniers temps. Là, on est à deux défaites consécutives. Est-ce qu'il y a un petit coup de fatigue de cet OM? C'est ce qu'on a ressenti, en tout cas, vu de l'extérieur ce week-end.
C'est une théorie qui prend du sens, Arthur. On peut parler de fatigue physique, mais aussi de fatigue mentale. De fatigue mentale, parce que pour moi, c'est la chose la plus importante dans cette capacité à se dire quoi? On va aller à l'extérieur, on va devoir faire un nouveau résultat. En plus, les poursuivants n'avaient pas forcément pris tous les points. Donc, par rapport à ça, on a vu l'Olympique de Marseille qui est arrivé peut-être à court d'idées. Et ça s'est ressenti sur la première période où, pendant 20 minutes, on ne voit pas la meilleure version de l'Olympique de Marseille. Et ça coïncide avec le premier but rennais. Ensuite, il y a un peu du mur au milieu de la première période avec la frappe d'Aubameyang arrêtée par Mandanda. Mais d'ailleurs, on a vu qu'au moment justement de faire mieux en termes d'intensité, en termes de qualité technique sur la seconde période, tu n'as pas été en mesure de le faire. Et arrive le deuxième but, et le deuxième but qui fait mal sur pénalty de Bourigeaud. Donc pour moi, c'est une défaite qui est logique, même si Rennes est quand même opportuniste sur ce match-là, mais qui s'inscrit dans une dynamique, dans un début de dynamique pour Marseille, qui n'est pas bien. Et je pense que la trêve internationale arrive à point nommé.
Il y avait un autre match, parce que l'OM est quand même concerné par la course à l'Europe. Autre match important dans cette course à l'Europe, c'était celui entre Brest et Lille, un partout. Beaucoup de prétendants à l'Europe qui ont perdu des plumes, d'ailleurs, un petit peu ce week-end. Mais il y a un joueur qui a retenu notre attention, comme c'est le cas depuis plusieurs semaines, c'est quand même Jonathan David, qui est tout simplement le joueur qui marque le plus dans les 5 grands championnats européens en 2024. Est-ce qu'il a franchi un palier, Jonathan David, pour toi, Elton?
Je pense qu'il a retrouvé un niveau qu'on lui prêtait. C'est-à-dire que quand on parle de Jonathan David, on parle d'un attaquant qui se destine à jouer dans des clubs européens d'importance. Alors peut-être pas un club top catégorie, mais peut-être l'étape intermédiaire avant de viser un club de top catégorie. Et par rapport à ça, on avait vu que la première partie de saison avait été très décevante. Pour quelles raisons? On ne sait pas, on serait très curieux à l'idée d'entendre l'intéressé, mais toujours est-il que sur la seconde période, Jonathan David apporte le facteur but. Et ça, c'est très important pour Lille, qui a vocation justement à se battre pour le podium, à voir justement cette deuxième place occupée par Brest. Et Jonathan David est un acteur très important sur la deuxième partie de saison. Encore hier, dans un match qui est compliqué, dans un match qui se joue sur pas grand-chose, Jonathan David débloque le score. Alors, même si Brest égalise derrière, mettre du crédit sur ce que fait Jonathan David dans cette capacité justement à être régulier et décisif aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. Pour moi, c'est de bon augure, notamment dans la perspective du sprint final pour aller chercher ce podium et pourquoi pas la deuxième place, mais aussi en Ligue Conférence où Lille va retrouver Aston Villa.
Bon, Elton, on a balayé un petit peu rapidement tout ce qui s'est passé dans ce week-end, tout sauf ce match de clôture de cette nouvelle journée de Ligue 1 entre Montpellier et le PSG, véritable festival de buts et surtout véritable festival de Kylian Mbappé, encore, toujours lui. Elton, on termine une espèce de séquence d'un mois qui a commencé le 17 février par cette mise sur le banc de Kylian Mbappé contre Nantes. Alors, il avait été sur le banc contre Lille sans jouer à la rencontre précédente, mais c'était vraiment, là, pour le coup, une question de repos. Depuis ce 17 février, Luis Enrique a changé sa stratégie avec Mbappé. Il le fait rentrer dans une logique de rotation. 17 février, 17 mars, 7 matchs, 7 buts pour Kylian Mbappé, malgré un temps de jeu réduit. Il a manqué 205 minutes, un peu plus de deux matchs en cumulé. Ma question est simple, Elton, qu'est-ce qu'on ressort de cette séquence d'un mois et surtout, qui en ressort grandi? Est-ce que Mbappé sort grandi de cette séquence?
La personne qui en ressort grandi, c'est le PSG. C'est le PSG parce qu'on voit bien que l'association Kylian Mbappé-Luis Enrique, qu'on aurait pu juger explosive sur la base de Luis Enrique sort spontanément Kylian Mbappé, le même Kylian Mbappé qui lui répond en le défiant ostensiblement du côté de Monaco. Et bon, on se dit que il aurait pu avoir de la friture sur la ligne. Il n'en est rien parce que je pense que Kylian Mbappé a tout intérêt justement à collaborer avec Luis Enrique et Luis Enrique inversement parce que Kylian Mbappé est celui qui est présent sur le terrain et on voit un joueur qui sort d'une semaine vraiment probante aussi bien face à Montpellier, on va l'évoquer, mais aussi contre Nice à l'occasion de la Coupe de France qui te permet d'arriver en demi-finale. Mais pour revenir sur le match de Montpellier hier, c'est un one-man show. Ça voit bien chaud, il y a de tout, il y a cette capacité à marquer un beau but collectif et surtout à mettre un but qui individuellement est extraordinaire. Alors oui, les gens pourront dire, encore une fois, on parle d'une équipe de bas de tableau, mais le PSG sort de 3 matchs qui n'étaient pas aboutis, aussi bien en termes de points qu'en termes de jeu et même en termes de performance individuelle pour Kylian Mbappé. Donc le fait de le voir mettre un triplé juste avant la trêve internationale, ça fait saliver quand on sait que va arriver le mois de la vérité, ou plutôt les mois de la vérité avec le quart de finale de Ligue des Champions, la Coupe de France et la fin de championnat.
Est-ce que ce n'est pas justement ce genre de match contre Montpellier qui rend encore plus frustrante, en tout cas pour les observateurs extérieurs, cette gestion de Kylian Mbappé? Parce que là, on sent le monde de la Ligue 1, on sent qu'on est en train de le perdre, Kylian Mbappé qui s'en va tout doucement vers le Real Madrid. Est-ce que ce n'est pas frustrant et on sait que physiquement, il a le coffre pour enchaîner tous les matchs, Kylian Mbappé. Voilà, est-ce que ce n'est pas frustrant de revoir des matchs comme hier et de se dire, bon, bah, possiblement après la trêve, ça recommencera de la même manière? Ou est-ce que, selon toi, peut-être que Luis Enrique va adapter sa gestion?
Après, il faut aussi comprendre qu'il y a une vision moyen-long terme en ce qui concerne la saison du PSG. On parle d'une équipe qui est engagée sur 3 compétitions. Il va y avoir de la fatigue physique, il va y avoir aussi de la fatigue mentale. Fatigue mentale qui peut, et fatigue physique, qui peuvent engendrer des blessures. Luis Enrique, il a cette réflexion-là. Il ne faut pas oublier que Luis Enrique, il est quand même expérimenté. Il avait déjà été confronté à ce cas de figure avec le Barça en 2015. Bien lui en avait pris avec les rotations, puisque le Barça avait remporté le triplé. Aujourd'hui, quand on parle du PSG, largement leader en Ligue 1, ils ont encore pris des points sur Brest en demi-finale de Coupe de France et en quart de finale de Ligue des Champions. Quand on regarde la réalité du tableau du PSG, aujourd'hui, il y a des motifs d'espérer pour faire quelque chose d'inédit, d'historique. Et donc, par rapport à ça, on prend toutes les précautions possibles pour avoir la meilleure équipe sur le sprint final. Et ça passe par quoi? Ça passe par de la prévention, ça passe par le fait de ménager Kylian Mbappé. Alors oui, Kylian Mbappé est un compétiteur qui sûrement pourrait faire 90 minutes à chaque match. Mais Kylian Mbappé doit aussi comprendre que, il faut pas se battre sur tous les tableaux possibles. Enfin, si, dans le cas, dans ce cas précis, si, mais en gros, il faut pas perdre de l'énergie sur tous les matchs possibles. Et donc, par rapport à ça, je pense que Luis Enrique est dans la bonne idée en essayant de préserver Kylian Mbappé dans la mesure du possible. Je dis bien dans la mesure du possible parce que, encore une fois, il y a un juste milieu à avoir. Le joueur doit être compétitif, le joueur doit rester en forme, mais le joueur doit aussi se reposer. C'est un travail qui est complexe, mais c'est le travail de l'entraîneur et aussi du joueur.
Justement, l'entraîneur, est-ce que tu penses qu'il a gagné du crédit sur cette séquence? Parce que on va pas se le cacher, il a été beaucoup critiqué, et notamment par nous, hein, Luis Enrique, pour sa gestion, pour sa communication. Est-ce que à l'arrivée, les faits lui ont donné raison dans la rotation, dans certains joueurs qui ont pris un peu de confiance aussi?
Il a gagné du crédit dans le sens où on voit qu'on a un groupe impliqué. Pour Luis Enrique, le football a une portée collective. D'ailleurs, ça joue à 11. Et donc, par rapport à ça, on voit bien qu'il y a des joueurs qui, sans être des titulaires indiscutables, sont en train d'emmagasiner de la confiance, ce qui pourrait être important pour le sprint final s'il y a un ou deux blessés. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un écart théorique entre les titulaires et les remplaçants. Ça, c'était l'objectif de Luis Enrique sur la séquence du mois de mars. Évidemment, préserver les résultats en ce qui concerne la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des Champions, mais en même temps, instaurer, poursuivre une dynamique qui te permettrait de te dire que sur le sprint final, il y aura besoin de tout le monde. Le fait d'avoir un Lee Kang-in qui arrive et qui marque, ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Le fait d'avoir un Kolo Muani qui est capable d'être décisif, ça, ce sont des éléments qui sont très importants, indépendamment du fait que Kylian Mbappé reste le meilleur joueur de cette équipe. Et donc, moi, je pense que dans cette idée d'avoir réaffirmé le fait que le collectif passe avant tout, avec bien évidemment Kylian Mbappé en pierre angulaire du projet, pour moi, Luis Enrique gagne du crédit sur le mois de mars. Mais après, on sait très bien que dans le football, tout va très vite. S'il y a un mauvais résultat contre le PSG, enfin contre le lapsus révélateur, s'il y a un mauvais résultat contre le Barça, s'il y a une élimination en demi-finale contre Rennes, on entendrait beaucoup de choses sur Luis Enrique, mais Luis Enrique, il est conscient de ça, savoir que les dynamiques sont très difficiles à entretenir dans le football et qu'il faut faire très attention là-dessus.
Bon, toute petite question bonus, Elton. Maintenant qu'on a dit tout ça, Kylian Mbappé est à 188 buts en Ligue 1, est-ce que la barre des 200 buts est atteignable pour lui sur la fin de saison?
26 journées ont été jouées, Kylian Mbappé a marqué 24 buts, ce qui nous mettrait sur la barre, on arriverait sur, si je suis pas bon, si je suis bon en maths, sur 36 buts. Moi, je pense qu'il va le faire. Je pense qu'il va le faire parce que 12 buts avec 8 matchs à jouer. Bon, après, encore une fois, j'aimerais bien que Luis Enrique, par rapport à ça,
Voilà.
il ne le mette pas trop sur le banc. Et moi, je pense que pour un joueur qui est capable de tourner sur des doublés de manière très régulière, qui n'aura pas pour moi une période de 17, pour moi, c'est un objectif atteignable. Et ce serait un beau symbole qui quitte vraisemblablement le PSG sur un 200e but.
Effectivement, on va suivre cette petite curiosité statistique de près sur la fin de saison. Et évidemment, on va continuer de parler de Kylian Mbappé et du Paris Saint-Germain. Merci beaucoup, Elton, pour toutes ces analyses. On te retrouve très vite et nous, on va prendre la direction de l'Espagne. Allez, c'est parti pour la Liga maintenant. On accueille Anna Caro. Salut Anna, j'espère que tu as passé un bon week-end de football. On va parler football de club, football de sélection, mais on va commencer par ce qui s'est passé dimanche soir. Victoire nette, sans bavure, du Barça sur la pelouse de l'Atlético. 3 buts à 0. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur ce match. L'Atlético qui chute de manière assez spectaculaire à domicile, ce qui n'est pas habituel. João Félix qui refait le coup à l'Atlético. Qu'est-ce que tu retiens de ce match, toi?
Bah, on retient tout ce que tu viens de dire. On retient aussi surtout que l'Atlético était particulièrement fatigué après avoir gagné contre l'Inter. On l'a vu, ils ont joué 120 minutes, ils ont tiré, enfin ils ont été jusqu'au tir au but. Et clairement, ça s'est vu, surtout sur la seconde période. Le Barça était largement au-dessus dans le domaine physique, notamment. Et c'est surtout que on a vu un Barça létal. C'était d'ailleurs un des titres de la presse catalane ce matin. Et c'est un Barça qu'on a très peu vu cette saison, ouais. Parce que le Barça a généré pas mal d'occasions sur l'ensemble de ses matchs cette saison, surtout en championnat, mais pour ne pas marquer forcément au bout. Et là, finalement, on a eu un Barça totalement différent, avec assez peu de tirs cadrés, mais 3 buts à la fin. Donc c'est un Barça inhabituel, mais c'est aussi, enfin ça joue beaucoup le fait que Lewandowski soit revenu à son meilleur niveau, parce qu'hier c'est lui qui marque, il donne 2 passes décisives, il est évidemment nommé homme du match, ouais. et on voit en fait quand les individualités du Barça se mettent au niveau, ça fait la différence. Et ce que disait Xavi en conférence de presse, c'est que c'est sans doute le meilleur match de Lewandowski cette saison, mais c'est sans doute aussi un de ses meilleurs matchs depuis qu'il est au Barça. Et c'est vrai que alors à voir si c'est one shot ou si ça va durer, mais ça peut être une très bonne nouvelle pour le Barça vu les échéances qui arrivent.
Globalement, on a l'impression qu'il y a eu un vrai tournant le 27 janvier, quand Xavi a annoncé son départ en fin de saison après la fameuse défaite contre Villarreal. Le Barça est invaincu depuis, ils ont pris 20 points sur 24 possibles en Liga, un petit peu plus que le Real Madrid. J'en viens donc à ce que je veux te demander. Il y a 8 points d'écart entre le Real et le Barça. Bon, Girona a un peu lâché le morceau. 8 points d'écart, un classico encore à jouer entre les deux équipes au mois d'avril. Question toute bête, est-ce que le Barça peut encore croire au titre ?
Et bah, en tout cas, le Barça y croit. Et c'est ça qui est assez surprenant, c'est qu'à la fin du match, évidemment, ça a été la question qui a été posée, dans la mesure en plus, Girona a perdu ce week-end contre Getafe. Donc, il n'y a plus qu'un duel avec le Real Madrid. Et tous les joueurs, finalement, interrogés sur la question, disent qu'ils y croient. Souvent, c'est un peu langue de bois, hein, sur ces sujets-là, ouais. De dire « ouais, il reste en match, on verra », etc. Là, non, Xavi lui-même, en conférence de presse, a dit qu'il y croyait. Sergi Roberto, pareil, en tant que capitaine, a dit à la fin du match qu'il y croyait aussi. Et d'autres joueurs qui sont passés derrière, comme Marc-André Ter Stegen, qui était un peu plus timoré sur la question, hein, qui n'est pas allé aussi franco sur le « j'y crois », mais voilà, on sent qu'il y a une espèce de nouvelle énergie dans ce groupe. Et d'ailleurs, sur le fait que le Barça ne perd plus depuis que Xavi a annoncé, Xavi l'a dit lui-même en conférence de presse, c'était sa première réponse, de dire depuis que j'ai annoncé que je partais, on joue beaucoup mieux, on presse mieux, on attaque mieux, on défend mieux. Donc il n'a pas fait il n'a pas tiré de conclusion derrière, à savoir si son groupe se sentait libéré, etc. Mais voilà, lui-même rigole un peu de la situation et se dit quand même, depuis que j'ai dit que j'allais partir, les joueurs se sentent plus libérés.
Bon, il reste 9 matchs de Liga, donc 27 points à prendre, mais il n'y a pas que la Liga, et tu as commencé à le dire, il va y avoir des échéances aussi, la Ligue des Champions. Les deux clubs sont encore engagés, le Barça comme le Real, en quart de finale de Ligue des Champions. Qui, selon toi, a la profondeur d'effectifs, en tout cas à l'instant T, par rapport aux absents, aux états de forme, pour le mieux gérer ces différents tableaux ?
Alors, ça va beaucoup dépendre des deux côtés des retours de blessures, parce que côté Barça, on attend les retours de Pedri et Frankie de Jong, ouais. Qui sont essentiels au milieu de terrain. Donc, si jamais ils reviennent à temps pour les matchs contre le PSG, ça va faire beaucoup de bien. Et côté Real Madrid, c'est la même chose, parce qu'on attend les retours de Alaba, de Thibaut Courtois, de Eder Militao aussi, qui, a priori, eux deux devraient être de retour pour les matchs de Ligue des Champions, pour les quarts de finale. Donc ça va beaucoup se jouer là-dessus, parce qu'on a vu même ce week-end quelques mauvais choix de Lounine dans les cages. Kepa n'a jamais donné satisfaction côté Real. Donc si Thibaut Courtois, par exemple, revient à son meilleur niveau, ça va faire beaucoup de bien, parce qu'en plus, si on regarde le match par exemple du Barça hier soir, c'est beaucoup d'efficacité, mais dans les deux surfaces, c'est un Marc-André Ter Stegen qui est très très bon sur sa ligne, et Lewandowski qui est très bon devant. Là, pour l'instant, du côté du Real, ils ont cette certitude avec Vinicius quand même, qui est très en forme, et derrière, il leur manque cette certitude qui était Thibaut Courtois lors des saisons précédentes, et qui a permis de gagner tous ces titres-là. Si Thibaut Courtois revient, on ne sait pas jusqu'où peut aller le Real Madrid, mais ils nous ont déjà montré que il leur suffit presque de ces deux certitudes-là pour aller loin en Coupe d'Europe, avec un groupe qui est toujours aussi expérimenté. Ils ont toujours Modric, Kroos, etc. Donc a priori, moi, je miserais plus sur le Real qui peut aller plus loin, parce qu'on l'a vu toutes les dernières saisons, c'était quand même le candidat favori en Espagne. Mais attention, le Barça y croit, en tout cas. Même si ce sera contre le PSG, mais le Barça y croit. Il y a une énergie positive à l'instant où on s'en parle, en tout cas, parce qu'on sait que ça peut très vite basculer au Barça. Donc là, on est le 18 mars et le Barça y croit, en tout cas.
On va beaucoup reparler de ce Barça, évidemment, de ce Barça PSG. On va faire une petite parenthèse football de sélection parce que la trêve internationale commence. La liste, évidemment, de la Roja a été dévoilée la semaine dernière, avec notamment une nouveauté, c'est le jeune Cubarsí, le jeune défenseur du Barça, justement, 17 ans, première convocation avec 13 matchs en pro. J'ai l'impression que ça a quand même fait parler en Espagne et ça s'inscrit dans une logique, dans un passé récent, qu'on voit se répéter avec Yamal, etc.
Oui, alors quand il est appelé, il a même que 12 matchs avec en professionnel et quand enfin, il a seulement une titularisation en Ligue des Champions, donc c'est assez fou. C'est pas la première fois, hein, parce que Lamine Yamal avait été convoqué au bout de 5 matchs, Gavi au bout de 7 matchs en professionnel, et ça montre beaucoup du vide un peu qu'il y a sur cette génération, du manque de joueurs de talent, et en tout cas de gros talents, parce que globalement, au niveau de la Liga, il y a des joueurs de talent, mais qui n'ont pas forcément le niveau pour aller en sélection. Là, c'est misé encore très gros sur un jeune de 17 ans qui doit tout encaisser parce que la Liga, parce que la Ligue des Champions, etc. Il est devenu un peu la nouvelle mascotte de cette équipe de Xavi. Ça reste dangereux. Et en fait, on a eu la semaine passée les échos de la part du Real Madrid, du Barça, qui disaient qu'ils refusaient que leurs joueurs participent et à l'Euro et aux JO, ce qui risque d'être très compliqué parce qu'en Espagne, tu es obligé de répondre à une convocation si tu es sélectionné pour l'instant. En tout cas, c'est dans la loi. Donc, si le sélectionneur espagnol décide que le joueur fait les deux échéances, il sera obligé de le faire. Sinon, il peut être suspendu. D'accord. Sa licence peut être suspendue
D'accord.
pour 3 ans. Donc, je pense qu'un jeune comme Cubarsí ne prendra pas ce risque-là.
On est d'accord.
Mais ça montre un peu les limites d'un système aussi. C'est qu'en Espagne, il y a certains postes auxquels on n'arrive plus forcément à former. Le problème aussi de cette surdominance un peu Barça-Real, parce que Cubarsí est sélectionné à 17 ans, mais par exemple, si on prend Mosquera qui joue à Valencia, qui fait une saison incroyable, méritait sans doute plus de jouer que Cubarsí au niveau A. Cubarsí a évidemment plus de potentiel à exploiter, mais il n'y avait pas ce truc de le bloquer parce qu'il n'a que la nationalité espagnole, donc il n'y avait pas de raison de se précipiter comme ça. Et ça montre des limites du côté aussi de la sélection, du coup, de se porter un peu uniquement sur ces joueurs qui ont une certaine hype dans les médias, parce qu'aussi ça fait vendre. Et c'est vrai que ce fait d'appeler autant de très très jeunes joueurs qui ont très peu de matchs en professionnel, on l'a vu que ça a été dangereux par le passé avec Pedri.
Ouais.
Visiblement, les leçons n'ont pas encore été tirées du côté de la sélection espagnole. Ils n'ont pas le même réservoir que nous on peut avoir en France, hein, faut s'en rendre compte. Mais voilà, c'est quand même un avertissement de se dire comment on peut arriver à qu'un joueur qui a fait un match de Ligue des Champions soit déjà dans la liste. On peut en plus imaginer que les autres qui ont joué hier soir du côté du Barça, parce qu'il y en a deux autres qui ont joué, Héctor Fort et Marc Casado, qui sait, peut-être la prochaine liste ce sera encore eux, quoi. Et ça risque. En plus, il y a la polémique de dire que c'est toujours les jeunes du Barça qui sont appelés, pas forcément ceux des autres clubs et pas ceux du Real Madrid. Il y en a très peu qui jouent côté Real. Mais voilà, ça rajoute encore une autre pression à un joueur qui, lui, n'a rien demandé et il a jamais demandé de porter la cause du Barça en sélection, en tout cas.
Bon, on va suivre ça de près, mais c'est vrai qu'ils sont toujours plus jeunes, toujours plus nombreux. On en parlait au Barça, mais également en sélection espagnole. On va suivre ça de près et voir si ces joueurs ne sont pas grillés un petit peu trop vite. En tout cas, on va continuer de parler de football, de club et de sélection avec David Lortolari en Allemagne. Merci beaucoup, Anna, et à la semaine prochaine. On termine ce tour d'Europe en Bundesliga et on retrouve pour ça David Lortolari, notre spécialiste du foot allemand. Salut David, on n'a pas fait de point Bundesliga la semaine dernière, mais j'ai l'impression qu'on en est au même point, à savoir on voit Leverkusen continuer de gagner chaque semaine, encore et toujours. 7e victoire de rang ce week-end si je dis pas de bêtises. David, j'ai deux questions. Est-ce que le titre peut encore échapper à Leverkusen? Et est-ce qu'on commence à parler d'une saison des invincibles à la Arsenal un petit peu?
Absolument. La réponse est oui pour la dernière question, la saison des Invincibles. Quand on regarde un petit peu les avis des supporters, notamment bavarois et notamment des gens qui ne sont pas très amis avec Leverkusen, il y en a aussi en Allemagne qui préfèrent des clubs soi-disant plus traditionnels, on s'aperçoit que les gens ont rendu les armes, c'est-à-dire qu'ils ont convenu tous que Leverkusen était en réussite cette saison et que ce n'était plus un hasard toutes ces victoires à la fin des matchs, dans les arrêts de jeu, que ce soit en Bundesliga, que ce soit en Ligue Europa aussi. Cette équipe impressionne et on a la sensation que Xavi Alonso a toujours un coup d'avance. On a eu l'occasion de le dire plusieurs fois dans notre émission. Et ça se vérifie encore ce week-end avec Leverkusen qui débloque les situations, même quand elle n'a pas un avant-centre de métier forcément en grande, grande forme. Il y a toujours des joueurs derrière le dernier maillon de la chaîne qui peuvent débloquer la situation. C'est le cas de Florian Wirtz ce week-end contre Fribourg à Fribourg, un match qu'on pouvait imaginer un peu difficile. Et puis Leverkusen s'impose avec un but d'avance à l'arrivée. L'impression de maîtrise, l'impression de réussite, l'impression d'une équipe machine qui produit du jeu et qui peut, à partir de. Le danger peut venir à partir de n'importe quel joueur. Alors on pourrait en mettre certains en avant, mais c'est vraiment le collectif et la maîtrise, la maestria de Xabi Alonso qui sont à souligner surtout.
Bon, ça commence à être compliqué donc pour le Bayern Munich de s'accrocher dans cette course au titre. Pour autant, on voit un Bayern qui va mieux. J'ai l'impression qu'il y a un peu le même effet que ce qui se passe du côté de Barcelone, où le Barça va beaucoup mieux depuis que Xavi a annoncé qu'il quitterait le club en fin de saison. Là, on note un certain regain de forme aussi depuis que c'est acté, depuis que le départ de Tuchel en fin de saison est acté. Est-ce que c'est ce que tu ressens aussi, David, tant en termes de résultats que ce qu'on voit dans le contenu?
Oui, Tuchel a réussi à imposer ses solutions assez radicales, hein, déplacer un Kimmich du milieu de terrain axial au poste d'arrière droit où il est clairement plus performant. Ça a été une décision forte, par exemple, et on a la sensation qu'il y a une forme de libération, le dynamisme est revenu. L'équipe bénéficie aussi de peut-être de sa culture des fins de saison, c'est-à-dire que quand on sent que quelque chose est possible, même si c'est improbable, on y va à fond. Harry Kane s'inscrit très très bien dans cette logique-là, même s'il s'est fait mal en se heurtant à un poteau dans le match de ce week-end contre Darmstadt, cette victoire 5-2. On a l'impression que les joueurs du Bayern, dans cette culture bavaroise de la gagne, se sont remis en marche avant. Il y a du dynamisme individuel, il y a de la fluidité aussi dans les transmissions. Puis il y a quand même des artistes dans cette équipe. C'est un peu la signature de cette saison. C'est-à-dire que, comparé à Leverkusen, qui est très collectif, qui est très fluide, qui est une équipe sans immense star encore, au Bayern, on compte décidément et définitivement cette saison sur les éclairs des individualités. Leroy Sané est absent pour quelques matchs là en équipe nationale et il est un tout petit peu en baisse, mais c'est typiquement le genre de joueur et le genre de profil qui peuvent faire des différences. Jamal Musiala, Harry Kane, quelques autres aussi, et c'est une équipe voilà, d'impulsion le Bayern. Et justement, en matière d'impulsion, elle a retrouvé du dynamisme là. Et c'est enthousiasmant pour les supporters et pour les spectateurs en général. Il y a quand même quelques sueurs froides malgré tout pour Tourelle, Arthur, c'est que la défense continue d'encaisser des buts. Deux contre Darmstadt quand même ce week-end, plus une barre et un poteau. Peut-être c'est un motif d'espoir aussi pour l'adversaire en Ligue des Champions, mais ça, il est temps d'en reparler.
Ouais, effectivement, on aura le temps de parler de ça. Mais là, on va basculer vers du football de club au football de sélection, David, si tu le veux bien. Parce qu'on a vu la liste dévoilée par Julian Nagelsmann pour les matchs amicaux contre la France samedi, match de gala, puis contre les Pays-Bas. Et ce qu'on peut dire, en tout cas, en tant que grand public ou non spécialiste du football allemand, c'est qu'il y a pas mal de noms qu'on ne connaît pas, si on est tout à fait humble. David, parle-nous un petit peu de ce qui ressemble à un gros coup de balai de Julian Nagelsmann dans cette sélection allemande.
Les confrères sont unanimes, la presse est unanime depuis la décision, depuis l'annonce. Choix très courageux de Nagelsmann, très conséquent, qui a constaté que les derniers résultats, souvenez-vous, il y a quelques semaines, quelques mois, étaient toujours glissants, toujours branlants, toujours peu satisfaisants, peu convaincants. Et Nagelsmann donc a décidé de vraiment donner un vent de fraîcheur et de jouer. C'est ça qui compte, il faut insister, c'est factuel, de jouer sur la forme du moment. Un super exemple, c'est Jan-Niklas Beste, le formidable pied gauche de Heidenheim, qui est l'équipe sensation un petit peu de la Bundesliga cette saison avec Stuttgart. Stuttgart est tout en haut, Heidenheim est au milieu du classement, mais c'est une petite bourgade du sud de l'Allemagne et ils sont en train de faire un travail formidable. Et Jan-Niklas Beste, qui est un passeur super passeur, un pied gauche absolument chirurgical et très en réussite cette saison, en passeur décisif, en buteur aussi parfois, sur les coups de pied arrêtés et dans le jeu. Et Nagelsmann a décidé de le récompenser en l'appelant. C'est vrai aussi pour les joueurs de Stuttgart. Il y a Anton en défense, qui pourrait même être titularisé contre les Pays-Bas ou contre la France. C'est dire un petit peu la révolution. Undav en attaque, qui est le meilleur buteur allemand de la
Ouais.
Bundesliga, avec, si je me souviens bien, 14 buts. Et on fait confiance, donc on récompense les joueurs en forme du moment. Ça fait du dégât. Ça fait du dégât parce que, eh bien, les grands anciens sont écartés provisoirement, ou peut-être pour plus longtemps. Ça, on le saura si l'équipe a de la réussite là, dans les matchs qui viennent. Un Mats Hummels n'y est pas, par exemple. Les Sénateurs commencent à voir leur place un petit peu remise durement en question. Goretzka est écarté aussi au Bayern, alors que son jeune compère du milieu de terrain, Alexander Pavlovic, qui est la révélation pour le coup individuel au Bayern cette saison, est appelé parce que il est très performant malgré sa jeunesse. Donc Nagelsmann apporte de la jeunesse, de la fraîcheur, de la performance, de la forme du moment. Bien sûr, le risque, on en convient tous en Allemagne, c'est que ces joueurs-là mettent du temps à s'agréger ensemble, à recréer une équipe. On n'est qu'à quelques mois de l'Euro, à peine. Et donc, bien sûr, Nagelsmann prend un risque à ce niveau-là. C'est pour ça que la presse, qui est unanime pour le saluer, parle de courage. Parce que, bien sûr, si ça devait mal se passer sur les matchs des Pays-Bas et de l'équipe de France qui viennent, Nagelsmann serait fragilisé, serait en difficulté. Ça ne veut pas dire qu'il serait poussé dehors. On veut absolument faire l'Euro avec lui. La direction fédérale l'a annoncé et a insisté. Mais ouais, c'est une décision plus radicale que jamais. On n'a pas souvenir dans l'équipe d'Allemagne d'un tel coup de balai si proche d'une grande compétition, et même d'un tel coup de balai tout court. C'est vraiment, je le répète, j'insiste, le mot courageux qui est utilisé à propos des choix du sélectionneur en ce moment.
T'as commencé à l'évoquer, David, l'euro arrive à grands pas, l'euro à domicile. Du coup, ça nous paraît un petit peu flou, en tout cas vu de l'extérieur. On a du mal à se rendre compte des ambitions que porte l'Allemagne avant cette grande compétition. Qu'est-ce que ça voudrait dire réussir l'euro pour l'Allemagne avec autant de nouveaux joueurs intégrés aussi près de l'échéance?
Alors, réussir l'Euro, c'est assez clair dans l'esprit des dirigeants, dans l'esprit d'un Rudi Völler, dans l'esprit de la présidence à la Fédé. Ce serait arriver en quart, en demi. Ce serait une réussite, mais surtout, ce serait une réussite de leur point de vue. Je ne parle pas de mon avis personnel.
Ouais.
Mais surtout, renouer le lien avec un public qui s'est lassé, qui s'est désintéressé de cette équipe et qui ne lui accorde plus aucun crédit. Il faut d'abord renouer le lien avec le public, et ça passe indiscutablement en Allemagne, je pense que c'est de toute manière générale, par des résultats, par des victoires, par des buts, par un jeu spectaculaire et intéressant pour le public. Ça passe surtout par là. Ce serait ça la réussite, parce qu'on se rappelle beaucoup de 2006. On veut retrouver ce qu'on appelait le Sondermärchen, ce conte d'été, la réussite, l'atmosphère de la Coupe du Monde 2006. Ce sera un euro cette fois, mais on veut retrouver du bonheur dans les rues, dans les tribunes. Voilà, ça passe par du jeu convaincant. Attention, c'est pas parce que Nagelsmann a fait appel à tout un tas de nouveaux, on les a pas tous cités, mais c'est assez spectaculaire effectivement, que dans le 11 de départ au début de l'Euro, il n'y aura pas des joueurs connus. Évidemment, le gardien de but sera connu, l'avant-centre, on imagine que ce sera un Füllkrug, même si maintenant il y a cette concurrence avec Undav de Stuttgart, Wirtz, Musiala derrière, avec Gnabry et Sané qu'on espère en forme aussi. Voilà des joueurs malgré tout connus. Au milieu de terrain, un Gundogan, un Toni Kroos qui revient et autour duquel il va falloir s'organiser, du Kimmich, du Tah, du Rüdiger en défense. Il y a quand même quelques certitudes sur la valeur individuelle, mais clairement, on est en train d'essayer de changer d'air dans cette équipe et dans cette équipe nationale d'Allemagne.
Bon, France-Allemagne, c'est toujours attendu et on aura quand même un petit œil particulier sur toutes ces petites nouveautés, tous ces jeunes de l'équipe d'Allemagne face à l'équipe de France samedi. Merci beaucoup, David, pour ton analyse et puis on se retrouve très vite pour parler de foot allemand. Salut, David.
Merci, à bientôt.
C'est la fin de ce Tour d'Europe. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur toutes les plateformes de podcast en tapant Eurosport Football Club. On remercie Adrien Hio et Simon Farvac à la réalisation et Quentin Guichard au graphisme. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bonne semaine de foot à tous.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.